Le Furet avec Guy Haddad.
Nous sommes lundi matin, comme vous le savez, c'est la fête du Canada. Et qui dit Canada, dit des très bons penseurs. J'ai trouvé Yoram Ettinger. Il n'est pas canadien, non, mais c'est un ancien ambassadeur d'Israël et m'a envoyé un message au monde libre. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et le principe des droits de l'homme sont deux choses diamétralement opposés les uns aux autres. La composition du Conseil, qui est déterminée par la situation géographique, édicte la conduite anti-américaine par la direction même des régimes non démocratiques, et ça en est la preuve. Par exemple, le Venezuela, membre du Conseil, est une dictature qui emprisonne les dirigeants de l'opposition. Elle est anti-américaine et s'aligne sur le régime des ayatollahs en Iran. Le Congo, lui, est gouverné par un petit dictateur qui assassine ceux qui s'opposent à lui et maintient son siège en violation totale avec la constitution de son pays. Le Pakistan est accusé de violations flagrantes et massives des droits de l'homme, allant des exécutions sommaires et systématiques à l'oppression religieuse, et sert surtout de refuge au terrorisme anti-américain et vend son savoir nucléaire à qui est prêt à payer. Un autre membre du CDH est l'Afghanistan. Imaginez-vous l'Afghanistan qui envoie des groupes terroristes pour prendre soin des opposants au régime. Le Burundi, accusé de crimes tels que l'enlèvement, la torture, l'exécution de ceux qui expriment l'opposition, refuse lui aussi de coopérer avec les enquêteurs du Conseil dont il est membre. Cuba, n'en parlons pas, continue également à réprimer l'opposition, la liberté des médias et les droits de l'homme. Les autres stars de la liste des États membres, malgré leur violation systématique des droits de l'homme, sont le Rwanda, le Sénégal, le Togo, l'Angola, l'Irak, la Tunisie, le Qatar, et la Chine, pour terminer, de nous dire monsieur Yoram Ettinger. Mais ne croyez pas, les signes ne sont pas nouveaux. En 2008 déjà, le CDH a montré son vrai visage lorsque les 47 membres ont approuvé la nomination de Richard Falk, et pourtant connu pour son attitude particulièrement vénéneuse et venimeuse à l'égard des États-Unis, pour un mandat de 6 ans. En tant que rapporteur spécial du Conseil sur les droits de l'homme, territoire palestinien, etc. Falk a accusé le président de l'époque, George W. Bush, de tirer des conclusions sur le 11 septembre et a même laissé entendre que des éléments américains de droite auraient pu être impliqués, pire encore, auraient été eux-mêmes les instigateurs. Donc après l'attentat également du marathon de Boston, rappelez-vous en 2013, Falk lui-même a cité le poème W. H. Oden, « Ceux-là à qui le mal est fait font le mal en retour ». Il fallait la trouver, mais il l'a trouvée. Le retrait américain du Conseil des droits de l'homme, donc le CDH, révèle l'hypocrisie de ce Conseil. Il enlève aux États membres la capacité d'utiliser la superpuissance qui mène le monde libre pour couvrir leurs attaques routinières contre les droits de l'homme et saper les intérêts américains et promouvoir des objectifs des nations ouvertement anti-américaines. Et ça, c'est la dernière initiative d'une politique cohérente. Ce n'est que récemment que les États-Unis se sont retirés de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, et en fait, même procédé, ou plutôt même accord, qui n'a jamais été approuvé par le Congrès, rappelez-vous. En fait, que s'est-il passé? L'accord promettait au gouvernement anti-américain de l'Iran une aide très généreuse, immédiate et pratique, en échange de vagues promesses concernant l'avenir. Il l'a fait. Et malgré que le couteau des ayatollahs se rapprochait de plus en plus des égorges de l'Arabie saoudite et des autres États pro-américains du Golfe, et que l'Iran approfondit ses positions, en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen. Donc les récentes mesures prises par l'administration américaine signalent aux Nations Unies et aux autres entités qui bénéficient de l'aide des États-Unis que dorénavant, le soutien continu sera subordonné à l'adoption de politiques plutôt pro-américaines. Les jours où les avantages et les ressources ont été canalisées dans les poches des entités qui crachent dans le visage des États-Unis sont terminés. L'ONU risque de perdre son soutien financier principal, tout de même, qui représente environ 20% de son budget, dont un quart des fonds destinés à l'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les soi-disant réfugiés palestiniens qui financent l'éducation à la haine et l'incitation au massacre et l'incitation au terrorisme. Ces mouvements sont importants, non seulement pour les intérêts des Américains, mais aussi comme un message important pour le monde tout entier. Et ça, c'est signé par Yoram Ettinger, ancien ambassadeur et chef de la deuxième pensée. J'ai beaucoup aimé la visite du prince Charles ici même en Israël. Alors, et comme nous avons encore un peu de temps, et après ce merveilleux exposé de Yoram Ettinger, je voudrais vous parler que la lignée documentée de la reine Elisabeth II, qui aura bientôt 98 ans, prouve que la maison de Windsor tient à ses traditions. Prenez par exemple les mots chantés par le chœur qui ont accompagné Catherine Middleton et le prince William alors qu'elle marchait dans l'allée. S'il était dit purement et simplement « Jérusalem est construite comme une ville, c'est l'unité en soi, priez pour la paix de Jérusalem, ils prospéreront pour vous aimer, que la paix soit dans tes murs et la plénitude dans tes palais », et ces mots ont été écrits, rappelez-vous, il y a 3000 ans par le roi David dans ses livres de Tehillim, dans le psaume numéro 122. Mais voyez-vous, ces mots, les officiels et les journalistes que moi j'ai baptisés les merdias, rappelez-vous, eux les ont oubliés. Ils ont écrit dans l'itinéraire du prince William que Jérusalem se trouve en fait dans les territoires palestiniens occupés. Nous les pardonnons de leur ignorance et du protocole royal et de leur propre pays. De plus, Jérusalem ne peut pas être une terre palestinienne occupée puisqu'elle n'a jamais fait partie d'un État appelé la Palestine et que le groupe humain appelé maintenant palestinien ne possède pas de terre. Et pour cela, on va vous faire un petit rappel historique. Les Anglais le savent. Jérusalem a été illégalement occupée par la Jordanie entre 1948 et 1967, et pas par les Palestiniens, non! Et avant cela, elle était sous contrôle de l'Empire ottoman de 1517 à 1917, et non toujours sous contrôle palestinien. Les Britanniques, eux, ont créé de toutes pièces la Transjordanie et le royaume de Jordanie sur un territoire qui devait faire passer partie du foyer national juif, le retirant du mandat britannique pour la Palestine. Ce sont les Britanniques eux-mêmes qui ont aidé la Jordanie à conquérir et à occuper illégalement Jérusalem en 1948 avec les troupes de Gulab Pacha, qui n'était nul autre qu'un général anglais du nom de Abbott Pacha. Il faut aussi se rappeler historiquement que ce sont les Britanniques eux-mêmes qui ont encouragé le nettoyage ethnique des Juifs de Jérusalem en 1948. Rappelez-vous l'opération Agatha le samedi 19 juin 1948, appelée également Black Shabbat ou samedi noir parce qu'elle a occupé le jour du Shabbat, était une opération policière et militaire menée par les autorités britanniques en Palestine mandataire où environ 2700 personnes juives ont été arrêtées. En mai 47, les résistants juifs capturés par l'armée britannique ont été condamnés à mort par un tribunal britannique. Il s'appelait Shlomo Ben Yosef, Mordechai Schwartz, Dov Gruner, Yichiel Dov Dresner, Eliezer Kashani, Mordechai El Kashi, Yaakov Weiss et Avshalom Aviv et Meir Naka. Ils ont été pendus dans la citadelle de Saint-Jean d'Acre à Caux. Rappelez-vous le film Exodus. Aussi, de 46, et jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948, ce sont toujours ces mêmes Britanniques qui ont confiné quelque 53 000 survivants en guenilles de l'Holocauste sur l'île de Chypre dans des camps inhumains qui n'avaient rien à envier à Auschwitz. Eh ben, c'est toujours le gouvernement britannique pro-arabe qui a interdit l'entrée des Juifs. Rappelez-vous le livre blanc de 1939 en Israël pendant l'extermination des Juifs en Europe. Les portes de la Palestine sont restées fermées pendant toute la durée de la guerre, bloquant des centaines de milliers de Juifs en Europe et dont beaucoup ont été victimes de la solution finale d'Hitler. Eh bien, permettez-moi de vous dire, prince William, au nom de votre peuple, vous avez l'occasion de présenter vos excuses pour toutes ces trahisons contre les Juifs. Il est temps de déménager votre ambassade de Royaume-Uni à Jérusalem, car Jérusalem est juive, et car Jérusalem est légalement et historiquement juive. Elle est écrite dans la Genèse 35, paragraphes 11 et 12. Il est dit, « Ce pays, je l'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai au peuple d'Israël, et je donnerai le pays à tes descendants. Vive Israël et vive ses alliés. Que le Dieu d'Abraham, d'Israac et de Jacob bénisse ceux qui bénissent Israël et maudisse ceux qui maudissent Israël. » Merci. Une dernière petite histoire pour montrer que tout n'est pas noir contre le peuple juif. Je vous présente August Landmesser. Il adhère au parti nazi de son plein gré en 1931, espérant ainsi une insertion sociale plus rapide. En 1933, il rencontre une jeune femme, Irma Eckler, qu'il épouse. Le seul problème de cette madame Irma, elle est juive et le mariage avec une juive à l'époque est illégal. En 1936, et avec deux enfants plus tard, August Landmesser a refusé d'effectuer le salut nazi en signe de désaccord avec la politique antisémite devant une foule conquise et énorme de plus de 25 000 personnes et où Adolf Hitler lui-même présent dans le port de Hambourg pour célébrer le départ d'un navire. Il essaye de fuir en 1938 avec sa famille. Il est arrêté à la frontière avec le Danemark et après avoir été déshonoré, malgré son acquittement, Auguste fut condamné à 30 mois de travaux forcés dans un camp de concentration en 1941, puis envoyé sur le front en 1944 où il disparut. Sa femme, Irma, fut arrêtée et déportée et ne revint jamais. Leurs deux filles ont échappé par miracle au pire en étant placées dans un orphelinat. L'aînée, en voyant la photo de tous ces gens à Hambourg en train de faire le salut nazi et un seul de ne pas faire le salut nazi, a reconnu son père sur la photo et a permis que cette histoire nous parvienne jusqu'à ce jour. Moralité, on peut toujours dire non par amour, par conviction religieuse ou par besoin de justice. On peut toujours le dire. Monsieur Oscar Landmesser, bravo. Yézich Rabachour.
Le Furet avec Guy Haddad.